qu'il va recevoir comme base au niveau de sa conduite sociale et bien sûr l'insertion scolaire. Elle suit parce que c'est une conduite sociale. C'est la suite. L'éducation dans la maison, au sein du foyer, consiste à préparer l'enfant à assumer les principes, on va dire, nobles, de ne pas les éduquer et les préparer à être des gens lâches, peureux. Non, on fait que ça. Et j'ai que le rôle, ou j'ai que le... L'enfant, il est éduqué dès le bas âge à la peur. Toujours. Et le monstre va venir te manger, etc. Il n'y a pas un aspect positif. Dima tachwif. À la lâcheté. Où on leur permet tout. Même la vulgarité. Que des parents sont contents de voir leur enfant sortir les grossièretés. Parce qu'il parle. Oh, regarde ce qu'il a dit. Alors que c'est une vulgarité. Où on va laisser à leurs enfants dans un état de laxisme total. On leur donne tout ce qu'ils veulent. Où en les privant de tout. On a vu des parents au nom de l'islam priver même les enfants de jouer. C'est haram. On commence par ça, hein. Et puis, je ne parle pas des autres privations. Ou, on est tellement strict, une discipline de fer. Les coups qui suivent la violence. Et le dénigrement permanent pour même les futilités. Ou, on va aussi être avare avec eux. Il faut qu'ils grandissent. Vraiment, ils donnent la valeur à l'argent, donc on ne lui donne rien. Le résultat, on le pousse au vol ou à la mendicité. J'ai dit le vol, j'ai pas dit les autres mots que vous connaissez, ce qui se passe, hein. Autre chose que nous devons inculquer aux enfants, la notion de justice. Et cette justice, elle commence par la justice entre les enfants. Et tellement c'est important que l'enfant voit le modèle de la justice sociale pratiquée à la maison, que notre prophète sallam, un jour, il a répété 3 fois, a'dilu bayna abna'ikum, a'dilu bayna abna'ikum, a'dilu bayna abna'ikum. Soyez juste envers vos enfants, soyez juste envers, équitable, il voulait dire. Équitable envers vos enfants, il l'a répété 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. De même, on ne doit pas, au nom des préoccupations familiales, négliger l'éducation des enfants et on sort le matin, on rentre que le soir. Je travaille pour gagner de l'argent, pour qu'ils aient tout ce qui leur manque. Ou le voyage, l'absence continuelle par des voyages. Ou à la mosquée. Comme si Dieu subhanahu wa ta'ala a demandé qu'on reste à la mosquée. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. On s'éparpille où? Mais pour voir des choses utiles. Et l'éducation est une des responsabilités qui nous incombe. Et nous avons certains de nos parents qu'ils utilisent dans leur éducation dua, عَلَى الْأَوْلَادِ. Ils invoquent Dieu contre leurs enfants et non pas pour leurs enfants. Et le prophète sallam a dit et elle a répété, لَا تَدْعُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ لَا تَدْعُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ. N'invoquez pas Dieu contre vos enfants. Et il a dit, ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, mais dans notre hadith, il a dit, ça peut coïncider avec un moment d'acceptation et Dieu accepte votre invocation. Les invocations sont acceptées. Alors si ça coïncide avec le moment de Kaboul al-Dua, et ben, lorsqu'une mère ou un père dit à son enfant, Allah le yabhak, inshallah que tu ne réussis jamais, et ben il réussira jamais. Et le prophète a dit, la tad'u, il ne faut pas invoquer Dieu contre vos enfants. De même, il faut éviter au sein de la famille que les enfants soient témoins des perversités. Il ne faut pas qu'on s'adonne à des perversités au sein du foyer. Il ne faut pas aussi qu'il y ait trop de conflits entre les deux parents. Les conflits, on les règle dans la chambre à coucher après que les enfants dorment ou ailleurs, mais pas devant les enfants. Pas devant les enfants. Il ne faut pas qu'il y ait de la contradiction dans les décisions. Une décision doit être maintenue, même s'il y a une erreur. Et on la rectifie d'une manière sage. On ne doit pas, oui et non, pas de contradiction. Il faut que les enfants, on leur apprenne à assumer des responsabilités. Il ne faut pas trop protéger les enfants. Il faut aussi apprendre à connaître la psychologie de l'enfant. Beaucoup de parents traitent leurs enfants comme des adultes. Il y a des parents qui demandent à des enfants de 3 ans d'avoir un comportement de 12 ans. Il y a des parents qui demandent à leurs enfants qui ont un âge de 5, de 6 ans, à avoir une attitude d'adulte. C'est une erreur. C'est une erreur. Que ce soit au niveau de la pratique religieuse ou au niveau de la conduite sociale. On ne peut pas. Il est dans un état, une étape d'apprentissage. C'est pour ça qu'on doit l'accompagner étape par étape. Parmi les responsabilités de la famille, le bon choix de l'école de l'enfant. Et aussi entretenir une relation permanente avec l'école. Parce que l'école, elle prend la relève, mais pas une relève totale. En partie. C'est un partenaire, mais ce n'est pas quelqu'un à qui on confie l'enfant, on lui dit « Maintenant, tu fais le travail à notre place. » Ça n'existe pas en islam. Ça, c'est dans un contexte musulman, ça n'existe pas que dire dans un contexte autre. L'enfant n'est pas un bien personnel des parents. Il appartient à la communauté, point de vue islamique je parle. Mais aussi, l'enfant est un individu qui a sa personnalité et qu'on doit respecter. Il est un dépôt précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a remis entre les mains des parents et des éducateurs. Et ils en répondront devant Dieu subhanahu wa ta'ala. La famille insère l'enfant dans la société et le prépare. Cela nécessite une initiation, une éducation et un respect de l'enfant. L'islam a insisté sur le respect de l'enfant et a interdit toute attitude violente à son égard. Et il met l'accent sur la mission éducative des parents. Et vous n'avez qu'à lire un petit peu des ouvrages qui parlent des attitudes de Rasulallah sallam, ce qu'on appelle la sunna al-amaliya. Comment est-ce que le prophète sallam corrigeait les erreurs des jeunes? Jamais on a vu l'exercice de la violence, mais on a vu une méthodologie où il y a de l'explication. Un jeune disait, un jour je suis venu faire la prière avec Rasulallah sallam et les compagnons, et lorsque c'était la prière, un a éternué, je lui ai dit « Rahimakallah ». Alors les compagnons ont commencé à me regarder avec leurs yeux, vraiment, il a dit presque qu'ils allaient me percer avec leurs yeux. Et d'autres, et moi j'ai dit, mais pourquoi vous me regardez comme ça? C'est dans la prière qu'il a commencé à parler, lui, le jeune. Alors il a dit, il commençait à frapper sur leurs cuisses. Ce qu'il disait, catastrophe, hein, comment ça se passe dans nos mosquées, hein? Et puis après la prière, tout le monde était dans un brouhaha, le prophète l'a appelé, il leur a dit, laissez-moi avec lui. Il dit, Wallahi, il jure, il ne m'a pas ni crié dessus, ni dénigré, mais il m'a dit, oh mon enfant, cette prière... Dans cette prière, rien n'est valable que lecture du Coran et évocation de Dieu. Et dans cette citation, il disait ce compagnon, je n'ai pas vu meilleur éducateur que lui. Procédez, alayhi salatu wassalam. Donc, Ibn Khaldoun a résumé l'esprit de l'islam en la matière. Il a dit, une attitude violente envers l'enfant, où on l'habituera à recevoir des coups, où il est sujet des dénigrements permanents, en résulterait une certaine lâcheté de caractère et une tendance à l'hypocrisie. Ainsi que de la passivité devant les problèmes de la vie. C'est dans sa muqaddima, le texte arabe, la page 508. Lorsqu'on tabasse son enfant sans arrêt, on le dénigre sans arrêt, il va commencer à utiliser des procédés hypocrites avec les parents. Et vous n'avez pas préparé un individu responsable de ses avis, fort dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui est hypocrite, qui sera comme ça dans sa vie. Attendez-vous, donc il va être un père aussi, ou une mère de ce genre-là, de ce calibre. Alors qu'est-ce qu'un père, une mère de ce calibre-là va-t-il donner? Surtout s'il y a une négligence sur le plan social, des vrais éducateurs qui sont les ulama et les autres acteurs de l'éducation, comme nous ici. Donc à quoi est-ce que vous attendez? Nous savons tout ce que je viens de dire, nous le savons, nous sommes conscients. Mais comme j'ai dit, nous ne réagissons pas. Mais l'autre, il les connaît, et c'est pour ça qu'il est tranquille. Qui sait qu'il n'y aura pas une réaction, un sursaut pour essayer de remédier aux problèmes à lesquels nous sommes confrontés. C'est pour ça qu'il est temps qu'on réagisse. Il est temps. Le madrasa maintenant et les éducateurs et les enseignants. C'est la deuxième famille, on va dire. Le deuxième lieu qui prend la relève dans l'opération éducative, mais pas totalement. Puisqu'il prend la relève, ça peut simplement maintenant la relève qui va prendre selon la conception islamique. En vous rappelant la définition de tarbiya, c'est une relève où il va avoir transmission de savoir, mais en même temps, il va utiliser tous les moyens, il va mettre en œuvre tous les moyens à travers le savoir pour inculquer un savoir-être à cet enfant. Et ça, dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt de la société. Pas des multinationales pour préparer un individu qui va être insoumis, qui va fonctionner dans la masse et disparaître dans la masse, au service de la société. C'est pour cette raison que la réussite de cette deuxième phase de l'éducation passe par la mise en place d'une relation de confiance avec celui qui assume la responsabilité éducative, c'est-à-dire les enseignants et les parents, et le sujet à l'aide de l'opération, c'est l'enfant. Les trois. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Enseignant, parent et l'enfant. Trois. S'il n'y a pas une relation de confiance, ça ne marchera pas. Et à vous de vous remémoriser un petit peu quels sont les enseignants qui vous ont marqué. Vous allez voir ceux avec lesquels vous avez réussi à avoir une relation de confiance. C'est-à-dire, il a dépassé la transmission, sa mission de transmetteur de savoir vers une relation autre, qui est donc d'être un modèle. Et nous tous, on a été marqués par un enseignant quelque part dans notre vie. Les enseignants et les éducateurs. L'islam insiste sur la qualité morale et intellectuelle des enseignants. Dont la mission, comme j'ai dit, elle est double. Ils doivent être de haute qualité morale et pédagogique. Lorsque je dis pédagogique, ici dans le sens, c'est-à-dire ils savent comment transmettre le savoir. Car l'enseignant éducateur est un modèle. Il influence l'enfant pour toute sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes les savants sont sur cette terre comme les étoiles Sayyidina Mohammed sallam ne parle pas des ulama ad-din. Comme j'ai dit, ne réduisez pas l'islam toujours à l'aspect spirituel uniquement. Al-alam huwa kullu insan yu'allimu an-nas al-khayr. Mu'allim an-nas al-khayr. Tous ceux qui transmettent une notion, une information utile à l'être humain, selon bien sûr la conception islamique, dans cette vie d'ici-bas et dans sa vie dans l'au-delà. Mu'allim an-nas al-khayr. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes les savants sur cette terre sont comme les étoiles grâce auxquelles on se guide sur terre et sur mer. Si les étoiles perdent leur lumière, ceux qui se guident par leurs moyens perdent leur chemin. Les enseignants participent activement au maintien de l'équilibre social. Ainsi, ils occupent une position de haute importance. L'enseignant ne peut amener ses élèves à s'intéresser au savoir uniquement pour ses compétences pédagogiques, mais aussi par le biais de son comportement et relations amicales et par ses qualités morales. Donc, la stratégie pédagogique de l'enseignant doit permettre de faire parvenir aux jeunes les connaissances, mais aussi les finalités de son enseignement. Maintenant, l'autre aspect du rôle de l'école qu'on appelle, puisque j'ai dit, il y a l'éducateur qui va transmettre un savoir-être et un savoir. Donc, je vais parler du savoir. L'islam incite à l'acquisition du savoir. Mais l'islam veut que le savoir doit être recherché pour lui-même. On a un problème. Le problème est le suivant, nous sommes dans une société qui a fait que la recherche du savoir égale diplôme, égale boulot. Alors les jeunes, ils disent, ça sert à rien d'étudier, puisque mon diplôme ne permettrait pas d'avoir de l'embauche. Dans une société où on cherche la qualification, mais il faut dire les choses comme elles sont, dans une société où il y a de la ségrégation. C'est pas moi qui le dis, les politiciens le disent. Nous sommes d'accord? Donc, on a appris aux gens, études égale boulot. Et on lui dit, études, il n'y a pas de boulot. Pour différentes raisons, soit la qualité de l'enseignement qu'il reçoit, soit la personnalité qu'on a fabriquée, qui s'en fout carrément, puisqu'elle est tellement encadrée qu'elle a des moyens pour répondre à toutes ses passions, à assouvir ses désirs, soit parce qu'il y a des problèmes de ségrégation. L'islam ne fonctionne pas comme ça. L'islam, il dit, talabul ilm lil ilm. On cherche le savoir pour le savoir. Nous n'étudions pas pour avoir du boulot, nous les musulmans. Combien de nos savants, rahimahumullah, qui sont arrivés à un niveau tel, que ce soit au niveau des sciences irreligieuses ou des sciences profanes, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas gagné leur vie avec ce travail, cette qualification. Combien de nos savants, ils étaient des boutiquiers, Al-Zajjaj, Al-Qattan, Al-Haddad, c'est pas de notre famille, hein, ce sont des noms de fonction, hein, de profession. Alim, il était cotonnier. Alim, il était vitrier. Alim, il était forgeron. L'ilm, c'est une chose, et le travail ou le rizq, c'est une autre chose. Là, c'est une question de aqidah. Est-ce qu'on a éduqué nos enfants, de point de vue théologique, dogmatique, à ce qu'ils comprennent que un rizq, muqaddarun. Vous savez le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfatan, thumma yakun mithla dhalika 'alaqatan, thumma yakun mithla dhalika mudghatan mukhallaqatan ghayr mukhallaqa, thumma Allah, il envoie l'ange qui souffle l'âme et puis il lui ordonne d'écrire quatre choses, y compris rizquhu. Un rizq n'est pas forcément tributaire du diplôme. Vous pouvez avoir fait des études les plus qualifiées et vous faites autre chose. Et ce n'est pas un déshonneur. Parce que vous êtes un individu responsable sur le plan intellectuel, utile à votre communauté, et une communauté ou une société composée de gens cultivé n'est pas comme une communauté, une société composée d'éléments ignorants. Au niveau de ses prises de position politiques, économiques, sociales et tout ce que vous voulez, y compris le problème éducatif. À quoi ça sert que j'étudie? Je vais finir à la maison, disent certaines sœurs. Et subhanallah. Est-ce que vous comparez une mère éduquée, cultivée, à une mère qui regarde que les séries égyptiennes longueur de journée? Est-ce que vous comparez un frère, un père, qui est chômeur, il n'a pas trouvé de travail, mais qui est diplômé, qui est cultivé, un père cultivé, un père ignorant, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose au niveau de l'opération éducative, je parle, et de la prise de conscience générale sur le plan social. C'est pas la même chose. C'est pas le même calibre d'individu qu'on a et qu'on aura. Donc l'islam, lorsqu'il parle du savoir, il parle d'une acquisition du savoir pour le savoir. C'est pour ça que notre prophète, il en a fait une obligation. Un minimum de connaissances est une obligation. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez la version talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim. L'acquisition du savoir est une obligation pour tout musulman. Il n'y a pas musulman parce que l'islam n'a pas besoin de se justifier pour ne pas qu'on le qualifie d'être une religion sexiste. Al-Muslim, c'est homme et femme dans notre religion. Le hadith, il s'arrête au terme musulman. Et tous les savants ont dit, musulman, c'est-à-dire rajulun wa mra'a. On n'a pas besoin de mentir sur le prophète, ajouter muslima. Regardez. Non. Le musulman wa rajulun wa mra'a fil islam. Et le Rasoul Salam, il savait, alayhi salam, de quoi il parlait. Il a dit, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ça, c'est le hadith que vous connaissez dans les sunan. L'autre hadith, c'est celui qui combine talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Et la demande d'aller le chercher même en Chine. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم ولو كان في الصين puis il a dit وطلب العلم فريضة على كل مسلم. Chercher à acquérir la science même si elle est en Chine. Et puis il a dit la recherche, l'acquisition du savoir est une obligation pour tout musulman. Et nous savons, dit rahimahullah, qu'en Chine on ne va pas chercher le fiqh, on ne va pas chercher le Coran, on va chercher un savoir profane. Et Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم il en a parlé alors qu'il n'était pas encore en Chine. Aucun de ses compagnons n'a mis les pieds. Vous comprenez? Donc, l'ilm, il faut chercher le savoir pour lui-même. L'islam aime les gens cultivés et répugne l'ignorance. L'islam n'aime pas les ignorants. وَلِذَلِكَ قَالَ أَهْلُ الصَّلَاحِ Les gens sensés, et puis ils ont dit يَفْعَلُ الْجَاهِلُ بِنَفْسِهِ مَا يَفْعَلُ الْعَدُوُ بِعَدُوِهِ L'ignorant, il peut agir envers sa personne de la même manière que l'ennemi agit envers son ennemi. Pour dire l'ignorant est un ennemi déjà à sa propre personne. Que dire à sa femme et ses enfants, à la société? Et le problème de la communauté musulmane, c'est quoi? C'est pas un problème de ta'al jahl, c'est pas un problème d'ignorance que nous avons, nous? Donc, la recherche du savoir est l'une des choses les plus merveilleuses au monde et des plus louables. Ibn Abdel Barr, rahimahullah, le grand savant andalou, malikite, il était muhaddith, a écrit un livre entier, il l'appelait Fadlu Talab al-Ilmi, les mérites de la recherche du savoir. Un livre entier, Fadl, les mérites de la recherche, de l'acquisition du savoir, d'Ibn Abdel Barr. Le prophète a dit, sallam, damné est ce monde, d'ici-bas, damné ce qui s'y trouve, sauf excepté, quand il s'agit d'invocation de Dieu, de tout ce qui rapproche de l'adoration de Dieu, ainsi le fait d'enseigner ou d'être étudiant. الدنيا ملعونة ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. Elle ne vaut rien, il voulait dire, sallam. Sauf si tu, dans cette vie, qu'est-ce que tu fais? Tu es un acteur qui va évoquer Dieu, adorer Dieu dans le sens global du terme, n'oubliez pas, l'ibada dans le sens global, pas c'est-à-dire zawiya dans un coin d'une mosquée. Ibada mefhouma al-shamil. Et puis il a dit, antakuna soit tu sois un alim, un enseignant, ya'allam al-nas, ou muta'allam. Wa lidhalika, ils ont dit, ba'd al-salihin, l'insan imma aliman ou muta'alliman, et ne sois pas le troisième. Soit un enseignant ou un étudiant, ne sois pas le troisième, tu seras parmi les perdants. C'est quoi le troisième? C'est un ignorant. Il ne faut pas être parmi la troisième catégorie. Donc ça c'est le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi chercher à acquérir le savoir même si elle est en Chine, nous avons dit Haji Khalifa. Haji Khalifa c'est un savant spécialiste dans les biographies, dans la recherche méthodologique. Et alors il a écrit un livre, une somme qui s'appelle Kashf al-Dhunun, an asami al-kutubi wal-funun. C'est une somme très importante. C'est une somme dans laquelle vous pouvez vous référer, un nom d'auteur, il vous donnera qui c'est cet auteur biographique. Et puis toutes les sciences et livres qui ont été écrits dans cette science. Alors il a dit dans son introduction, il dit, Rahimahullah, l'étude n'a point de finalité l'acquisition de la fortune, mais celle de la vérité et du bon caractère. C'est-à-dire si vous étudiez, c'est pas pour devenir riche. Nahna, il dit à son fils, étudie, il devient médecin. Allez, j'ai plus flos. Ben oui, parce qu'il y a l'idée du fric hein, là-dedans. C'est pas parce que le médecin est utile. Non, c'est le métier où il y a de l'argent. Il faut devenir ceci parce qu'il y a de l'argent. C'est pas ça la conception musulmane. Vous savez, Wallah, il y a des gens qui n'ont pas fait des études supérieures, ils gagnent mieux que nous. Hein. L'argent, vous pouvez le gagner en faisant du commerce, hein, même ambulant. Hein. Et vous pouvez gagner plus que beaucoup de gens. Hein. C'est pas ça le but. Donc, c'est pour ça que c'est Ali radiallahu anhu nous incitait à chercher la science. Il a dit, la science, il faut chercher la science et puis la répandre. Et ne cherchez pas la fortune. Parce que la science, lorsque vous la dépensez, elle ne fait que progresser, puisqu'elle progresse dans la société. Et la science, elle veille sur vous. Tandis que la fortune, vous la dépensez, elle diminue. Et puis, vous passez la nuit à la veiller. Khaif ala flisat, les hommes, que tu as peur que ton argent ne diminue, qu'on te vole, etc. Tandis que lorsque vous recherchez le savoir, vous n'augmentez qu'en valeur. Et vous, en la propageant, vous ne faites que la progresser. Donc, c'est ça la conception musulmane. Donc, en d'autres termes, l'islam veut que on étudie pour atteindre la vérité scientifique et la perfection humaine. L'enseignement a pour finalité d'inculquer aux jeunes l'espoir, la persévérance, la connaissance de la vérité. Et ici, je vous renvoie, j'ai pas assez de temps pour en parler, à la sourate Luqman, qui nécessite de la part de chacun d'entre nous une lecture très approfondie. Il faut lire les recommandations de Sayyidina Luqman. On en a fait un livre qu'on vend, mais les gens les lisent parce qu'ils sont beaux. C'est des belles recommandations. Non, chaque recommandation nécessite un livre. Il faut lire les recommandations de Sayyidina Luqman à son enfant. Et vous allez voir que c'est, il a mis le point sur les principes de l'éducation en islam. À tous les niveaux. Au niveau de cette relation, au niveau spirituel, physique, au niveau social et intellectuel. Il faut lire ces recommandations à partir de cette conception. Donc, dans la transmission du savoir maintenant, puisqu'on veut comparer ce qui existe à ce que l'islam propose, et à ce que nous devons faire aussi. Que ce soit dans un projet que nous allons essayer de l'insérer dans ce qui existe, dans le public, si on peut. Et si on veut, on pourra, pourquoi pas. Mais à force d'être une force agissante, et non pas qui subit. Sinon, il faut penser à des moyens de substitution. Et vous savez très bien de quoi je parle. Il faut qu'on ait un cadre, alors à ce moment-là, propre à nous, pour parler de ce projet, pour essayer de mettre en exécution ce projet. Alors, dans la transmission du savoir, il n'y a pas, dans la conception que j'ai vue, moi, chez les pédagogues musulmans, il n'y a pas la notion de l'échec. La notion de l'échec n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'enseignement est individuel, il est personnalisé. Et je prends un exemple très simple, que malheureusement, même certains de nos frères qui ont écrit sur la pédagogie, ils l'ont considéré comme un système classique, alors que c'est le système qui est maintenant considéré comme le top. Lorsque vous prenez un shir qui apprend à ses élèves l'apprentissage du Coran, la mémorisation, et là, des enfants qui ont tous le même âge, et il commence à leur donner la même sourate, mais il ne va pas presser. Celui-là, il lui faut une semaine, et bien il restera une semaine. Celui-là, il lui faut un mois, et bien il restera un mois. Celui-là, dans la même journée, il apprend, et bien il passe avec lui à la deuxième phase. Mais il ne négligera pas celui à qui il faut une semaine, ni à qui il faut un mois, tout en s'intéressant à celui qui est capable de maîtriser en un seul jour. On appelle ça de l'enseignement adapté et personnalisé. C'est la mode actuellement. Dans l'école européenne, il n'y a pas d'échec. On fonctionne par système de cycle. L'enfant, il peut être en première année en français, il est en quatrième année en anglais, il est en cinquième année en mathématiques. C'est le système musulman qu'on appelle système classique, archaïque. C'est ce système-là. Adaptation. Il n'y a pas d'échec. Parce que tous les enfants, ils ont une aptitude. Mais simplement, leur potentiel n'a pas pu être exploité, ou on n'a pas permis à leur personnalité de s'épanouir à cause de, on va revenir aux problèmes socio-culturels et économiques. Ce qu'il a reçu à la maison, ce qu'il a vécu sur le plan purement économique, physique, ou sur le plan affectif ou autre. C'est ça. Sidna Ali a dit que s'il y a une chose où on peut constater la justice divine, l'exercice de la justice divine entre les humains, c'est l'aql qu'il a donné. Sauf à ceux qu'il a enlevés, subhanahu wa ta'ala, par sa volonté. Mais il a dit, il n'y a pas un ahmaq et un zaki. Tous les humains, ils ont la même aptitude, mais c'est l'action socio-culturelle, l'économique, etc. qui intervient, qui fait. Et si on donne aux enfants les mêmes chances, et ben vous aurez des enfants tous qui réussissent et qui deviennent même des enfants très, très, comme on dit, des génies utiles à la société. Al-Ghazali, rahimahullah, a dit, le maître ne doit pas dépasser la capacité de compréhension de ses élèves. Donc les connaissances, il doit les faire passer de l'évident à l'ardu. Il commence avec les élèves qu'il a, donc étape par étape. De l'évident à l'abstrait, vous voulez dire, rahimahullah. De l'explicite à l'implicite, par phase. Une progression donc dans la difficulté du savoir, une adaptation permanente, c'est ce qu'on appelle l'école de la réussite pour tous. Lorsqu'on est dans une société, c'est censé être juste. La réussite dans l'acquisition du savoir tient en quatre conditions, selon la conception musulmane. Que l'apprenant ait été bien préparé à l'assimilation des connaissances. L'élève doit être préparé. Préparation préalable dont on avait parlé, dans la famille, puis par le système lui-même. Deux, que soient mis en œuvre les moyens pédagogiques adéquats. C'est-à-dire que les enseignants, aussi, on les a préparés, on leur a donné les moyens, etc. Trois, que l'enseignant soit de bonne qualité morale et pédagogique. Quatre, il faut que l'apprenant soit entraîné au préalable à acquérir la connaissance, et ça, je répète de nouveau, c'est le rôle de la famille. Voilà, si vous voulez, pour ce que je peux vous dire sur le rôle. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.